Voix nue. Toute cette semaine, Martin Kenéen rencontre Simone Schwarzbart. Ce soir, les enfants continuent à naître.
Simone Schwarzbart, on a évoqué votre écriture à quatre mains avec André Schwarzbart, votre écriture seule, la musique, la cuisine. Il se trouve que André Schwarzbart est mort en 2006 et ça a accompagné, peut-être ça a accentué ce silence dans lequel vous étiez entré à ses côtés après la réception négative de La mulâtresse solitude que André Schwarzbart avait signé en 1972. Vous avez publié Pluie et vent sur tes lumières miracles, qui a été salué par la critique au même moment que La mulâtresse solitude. Vous avez ensuite publié Tigeant l'horizon, puis Tombeau capitaine, votre pièce de théâtre en 1987. Et puis, soudain, trois ans après la disparition d'André Schwarzbart, c'est comme, non pas une résurrection, mais l'image qui m'est venue, c'est un volcan qu'on croyait éteint qui entre à nouveau en éruption avec la publication de L'étoile du matin en 2009. J'ai eu cette image de volcan. Et le volcan, c'est une figure double parce que à la fois, c'est la catastrophe, c'est la mort des personnes qui sont ensevelies sous la lave, sous la cendre. Et puis, cette cendre des volcans, c'est aussi une terre extrêmement fertile.
C'est une idée, en tout cas, assez effrayante que j'ai du volcan. Déjà, parce que je pense qu'André a voulu absolument situer l'action en Martinique, l'action du cycle antillais, hors solitude, je veux dire. Solitude, c'est la Guadeloupe. Mais après, l'enfant de solitude est acheté par une femme qui est l'épouse d'un planteur de la Martinique et qui achète cet enfant, cette petite solitude, et cet enfant de solitude qui s'appelle Louise Solite et qui l'emmène à la Martinique. Et en fait, je me suis demandé pourquoi ce déplacement. Et je pense que c'est à cause du volcan, justement, de ce volcan, la montagne Pelée, la triste histoire de la montagne Pelée qui a complètement détruit la ville de Saint-Pierre. Et c'est un lieu, un petit clin d'œil à ces univers concentrationnaires dont il a la hantise, André. Et puis, j'ai été aussi brûlée par ce volcan. Je l'ai été avec cette brûlure d'André, qui rappelle autre chose, bien sûr, et la brûlure de Mariotte. Et c'est à partir de cette destruction de tout son monde, en une nuit, que Mariotte décide de quitter son île et de s'en aller en Guyane.
Mariotte, c'est donc la petite fille
La petite fille de solitude. Le volcan, pour moi, ça évoque pour beaucoup de gens une résurrection après. Mais après quoi? Après la destruction. Et aussi la menace, parce que toutes ces petites îles, la plupart de ces petites îles ont une formation volcanique et vivent sous la menace. L'île de Montserrat qui a subi cette éruption. Voyez ce qu'elle devient. Toute une partie de l'île est complètement ensevelie sous cette cendre et ne renaîtra plus. Toute l'activité a dû se reporter ailleurs et ceux qui sont ensevelis le sont jusqu'à présent. En tous les cas, les volcans sont bien là dans notre univers insulaire. Et les volcans, les tremblements de terre, avant de partir de la Guadeloupe, il y a eu au moins deux ou trois répliques, deux ou trois petites secousses. Hein, et je vous assure que ça vous pince le cœur, en tout cas.
Alors l'image du volcan qui se réveille n'est sans doute pas appropriée pour évoquer le fait que on débarquait chez vous à Guayave, dans votre maison, Francine Kaufmann, cette chercheuse de l'Université de Jérusalem, et puis un certain Élie Dupré, qui, chacun à leur façon, ont contribué à rassembler et à recoudre, vous qui recousez la vie livre après livre, à recoudre ces notes éparpillées, ces traces qu'avait laissées André Schwarzbart dans votre bureau, atelier d'écriture commun. Vous me raconteriez, vous feriez le récit de cette découverte?
Mais bien sûr. Mais ce sont en fait des anges gardiens. Parce que ils sont survenus tellement miraculeusement, je dois dire, aussi bien Francine Kaufmann qui est venue, qui téléphone depuis Jérusalem, allô Simone, voilà, je voudrais consulter l'œuvre antillaise d'André. Je lui dis, Francine, André m'a dit qu'il avait tout détruit. Et je doute que tu puisses trouver quoi que ce soit concernant l'œuvre antillaise. Cependant, si tu veux me visiter, c'est avec grand plaisir que je te recevrai, mais je ne voudrais pas que tu sois déçue. Et elle est arrivée persuadée qu'elle allait trouver quelque chose. Et en fait, elle est restée dans ce grenier le soir très tard. Je voyais la lumière à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Et je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était quasiment une espèce de chasse au trésor. Et Francine est arrivée à comparer les écritures, à rassembler les pages éparses à droite et à gauche, à défroisser ce qui avait été froissé et qu'il s'apprêtait certainement à jeter de nouveau, à reconstituer en fait tout ce cycle qui était là en réalité, puisque chaque fois qu'André entamait un ouvrage, il n'y avait jamais une seule version du texte. Il y avait toujours plusieurs versions, et quelquefois plusieurs versions qui ne se suivaient pas forcément. Enfin, bref. En tous les cas, il y avait plusieurs cahiers qui avaient été sauvegardés, qui étaient là. Toute cette histoire, en fait, était là de nouveau, et il fallait simplement travailler sur les textes et les notes qui étaient là, retrouvées enfin, rassemblées enfin. Et voilà comment j'ai eu de nouveau en main le trésor. C'est pas souvent qu'on arrive à déterrer le trésor. Le trésor aux Antilles est en fait est gardé. Il y a un gardien du trésor. Et il faut que le gardien veuille bien vous l'offrir. Et je crois que le gardien, en l'occurrence, a bien voulu que Francine trouve le trésor et que à ce moment-là, que je puisse travailler et que je puisse récupérer, en fait, que je puisse de nouveau faire paraître, en fait, enfin, tout ce travail qui avait été réalisé. Donc, cela, c'est une chose. Par ailleurs, Francine travaille également sur les notes. Il y a un fonds schwarzbartien d'André qui est assez conséquent. Et les notes, des carnets, beaucoup de carnets, beaucoup de dialogues avec... c'était un lecteur assez assidu, acharné. Il a toujours lu dans la bibliothèque, le dialogue avec les auteurs, avec les personnages, avec les idées. Les livres sont annotés. Il y a un énorme travail d'archivage qui est rendu un peu difficile parce que tout est à la main, bien évidemment. Et il a une toute petite écriture et ça n'est pas très facile. Donc voilà, je viens de vous dire un peu l'aide d'Élie. Et Élie Dupré est ainsi venu à mon secours parce que après la parution de L'Étoile du Matin, il a fait paraître dans Les Temps modernes un très bel article sur le volume et qui m'a beaucoup touchée. Je lui avais demandé une fois que je faisais une célébration pour l'anniversaire d'André, je lui avais demandé de venir et d'intervenir. Et ce qu'il a fait. Et après, on s'est entendu, je ne sais même plus comment ça s'est fait, maintenant ça s'est fait, puisque nous avons cheminé pendant quand même 4 ans, je crois, où il a été un excellent collaborateur. Il a tapé sans impatience. Il a attendu que je déchiffre, que je reprenne moi avec mon écriture les textes, par exemple. On a beaucoup discuté aussi de tout ce travail, de sa signification, de son importance, de l'opportunité ou non de faire paraître ses écrits. Et je dois dire que Élie a été très présent et jusqu'à présent, très présent jusqu'à présent, oui.
Et cette chasse au trésor, le résultat de cette chasse au trésor, Simone Schwarzbart, c'est donc la publication de L'Ancêtre en solitude, d'Adieu Bogota, et demain du dernier tome.
Voilà, Mariotte ou le devoir d'amour, voilà.
Et cette chasse au trésor, donc on était avec vous, réveillés au milieu de la nuit par les bruits. On est chez vous, à Goyave, dans votre maison, avec de la lumière au grenier et Francine Kaufmann qui s'affaire. Cette maison qui s'appelle La Souvenance, vous disiez qu'il y avait forcément un esprit gardien qui avait laissé faire et s'accomplir cette chasse au trésor. Vous nous la décririez, cette maison, qu'on se représente, ce lieu, cette souvenance?
C'est une maison que mes parents nous ont donnée, André et moi, quand nous avons décidé de revenir au pays. Mais c'était une toute petite maison sans forme du tout, qui ne me plaisait pas, qui n'était pas, qui n'était pas agréable à habiter. À l'époque, il y avait des petits blocos en ciment qui se faisaient et qui froissaient le paysage, je dirais, antillais. Alors, nous avons décidé de faire une maison familiale de ce petit blocos et j'ai pris en main les travaux en ayant soin de réserver à André un espace complètement en dehors du temps, un espace suspendu comme un nid dans l'air. Et en même temps, il y a dans cet espace qui est le grenier, je dirais, il y a une pièce centrale et il y a tout autour une espèce de coursive où il pouvait se promener et réfléchir et regarder l'horizon, parce que d'un côté il y a la mer, de l'autre côté, derrière il y a la montagne. En fait, cette maison, c'est une île dans une île. C'est aussi cette maison, elle est devenue Maison des Illustres. Elle a eu le label Maison des Illustres lors de la visite de Frédéric Mitterrand, lors de son passage, alors ministre de la Culture, lors de sa visite aux Antilles, il est venu, il a eu la curiosité de venir visiter cette maison et elle lui a beaucoup plu. Et ainsi, point n'était besoin de la labelliser, elle était déjà labellisée par les habitants, par les habitants du début. Au début de notre installation à Goyave, c'était en fait un lieu où toute la population venait, où il y avait des gros cas, où
du tambour,
où il y avait les femmes qui passaient et qui me racontaient et qui se racontaient, où il y avait aussi beaucoup de petits mangers créoles en groupe et de réjouissances et de palabres en terrasse. C'était toujours un lieu complètement vivifiant et un lieu sonore, si vous voulez. Et c'est en même temps un lieu qui ressemble à un monastère, parce que dès lors que les gens se retirent, il y a une espèce de paix, de sérénité qui découle de cet endroit qui est magique. Parce que entouré d'arbres, entouré de verdure. Je l'ai d'abord appelé canapé vert, d'ailleurs, la maison. Ensuite, la souvenance, avec le décès d'André. C'est un lieu où il y a énormément de propositions de programmation culturelle. Nous y recevons des artistes. Il y a des petits concerts qui se passent. Il y a eu dernièrement, d'ailleurs, la résidence d'artistes d'Omar Sosa, de Moonlight, et c'est de tout cela qu'est, enfin, et d'autres, Claude Saturne, la chanteuse cubaine merveilleuse. Enfin, c'est là que qu'a pris naissance le projet de Jacques Créole Spirit,
Jacques Schwarzbart
de Créole Spirit, et c'est là aussi qu'a été tourné le merveilleux documentaire de Franck Cassenti qui s'appelle Brother Jacques à la rencontre de ses ancêtres, où l'on peut entendre la voix d'André sur des cassettes. Justement, que nous avons retrouvé dans ce loft également. Et il y a tant de choses qui sont nées et qui se sont faites dans cet espace qu'il est vibrant. Il est vraiment bruissant du passage de tous ces artistes qui viennent.
Vous évoquiez à la fois le fait que ce lieu peut avoir quelque chose d'un monastère, Simone Schwarzbart. Et puis aussi qu'il y a des esprits, on pense notamment aux esprits de la religion vaudou, puisque la souvenance, je crois que c'est aussi le péristyle haïtien.
C'est un péristyle haïtien, oui.
De cette religion vaudou. J'aimerais qu'on dise un mot de Dieu, parce qu'il y a le Dieu des Juifs qu'on ne nomme pas, et puis il y a le Dieu des chrétiens, il y a Jésus, auquel croient les femmes, par exemple, de l'ancêtre en solitude. Mais vous avez pu dire, après un plat de porc aux bananes vertes, donc ce chant à deux voix, que personne ne reconnaît, pas même Dieu, avez-vous dit au moment de la réception critique de ce roman. Et là, aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas moi qui crois au miracle, c'est le miracle qui croit en moi, avec toutes ces archives enfin retrouvées, et cette écriture qui, tout d'un coup, pour vous, vous autorisez à continuer à écrire. Alors, qu'en est-il de Dieu ou des dieux qui vous accompagnent ?
De Dieu ou des dieux, je n'en sais rien. En tous les cas, je me place comme ce prophète qui a dit qu'il pardonnait à Dieu. Je ne sais pas si je pardonne à Dieu, moi. Je n'en sais rien. Je ne peux pas... Nous sommes en procès, nous sommes toujours en procès, je ne sais pas si, en fin de compte, s'il va gagner, ou si moi, je vais gagner. En tous les cas, il y a peut-être, il y a quelque chose, et même s'il n'y a rien, j'aime à penser que les hommes sont à leur manière des dieux, eux aussi.
Qui sont capables de plonger comme tigeant l'horizon dans la gueule ouverte de la bête dévoreuse de monde.
Et oui, qui sont capables de cela. Et je crois que c'est pour tout cela que Dieu est jaloux des hommes. Il y a une jalousie. Je ressens qu'il y a presque une espèce de jalousie de la manière dont les hommes achèvent la création. Ils font et ils défont. Mais il y a des fois des choses tout à fait surprenantes, et ce sont elles que je veux voir, en tout cas.
Et ils sont en particulier jaloux des femmes, parce que je pense à Zeus qui passait son temps à s'éprendre de femmes mortelles. Vous pensez que les dieux sont en particulier jaloux du pouvoir créateur des femmes?
Et comment? Et déjà, mais elles pouvoir mettre au monde des créatures, c'est à la fois une responsabilité et une gloire sans égale. C'est en fait, on est en train de damer le pion à tous ceux qui sont en haut.
À propos de création et de mettre au monde, je pense à cette phrase qu'avait prononcée André Schwarzbart au moment de la publication du Plat de porc aux bananes vertes, donc votre premier roman écrit à quatre mains. Il disait que le Plat de porc aux bananes vertes, c'était pas une simple addition de nous deux, mais bien un troisième terme absolument nouveau, un enfant en quelque sorte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'écriture continue. Vous continuez à faire des enfants avec André Schwarzbart, Simone?
Mais oui, c'est juste cela qui se passe. Les enfants continuent à naître et ils ont peut-être les gens, comme disait André Schwarzbart. Je vous lis précisément parce qu'il faut vraiment que ça mérite d'être dit. Les parents se plaisent parfois à répertorier les traits d'un enfant selon qu'il relève de telle ou telle branche familiale. Or, s'il est relativement aisé de déterminer à qui appartient tel lobe d'oreille, telle couleur d'yeux, telle forme excellentissime de nez, comment classer les poumons, la texture des os, ou le réseau vasculaire de l'enfant. Comment classer l'invisible?
Nous arrivons au terme de notre conversation, de ces 5 entretiens, Simone Schwarzbart, et plutôt que de vous dire au revoir, j'ai envie de vous dire, comme dans Tigeant l'horizon, au rêve. Mais qu'est-ce que ça évoque alors pour vous qu'on dise au rêve et pas au revoir? C'est une tradition guadeloupéenne?
C'est une tradition guadeloupéenne qui renvoie à la magie du créole, à la magie du parler, à la magie contenue tout simplement dans le périmètre où l'on évolue, à la magie aussi des êtres qui justement se parlent de rêve en rêve. Ont la grande sagesse de ne pas être des briseurs de rêves, mais au contraire, de les continuer de personne à personne, de rêve à rêve. Ce soir-là, j'ai rêvé que nous étions tous deux noirs. J'avais ma peau de sang mêlé, tandis que la commune était d'un beau noir Congo. Nous avancions au milieu d'un immense hall qui tenait à la fois de l'église et de la mairie. Nous chantions des cantiques devant l'officiant qui avait le visage de Phil, celui qui m'avait servi un soir de traducteur à Harlem. Le maire se tourna vers moi d'un air suspicieux et se mit à examiner le bout de mes doigts. « Mais dites-moi, mademoiselle, on dirait bien que vous avez du sang blanc dans les veines. »« Mais mon sang est rouge, » dis-je, en me perçant le bras, d'où coula un sang rouge. Un instant dérouté, le maire réfléchit et puis dit « Je m'excuse, le sang de toutes les veines est rouge, mais c'est le sang du cœur qui compte », proclama-t-il triomphalement. Alors, la commune intervint. « Même si elle a du sang blanc, en quoi ça vous regarde ? Il n'est pas dit dans vos livres si la personne est blanche ou noire. Alors, mariez-nous et fichez-nous la paix. » « Ah, dit le maire, c'est pas si simple. Rien n'est porté dans les livres, mais c'est une question de conscience professionnelle. Je ne marie que les noirs avec les noirs, comme vous, monsieur, ou les tout blancs avec les blancs, les mêlés avec les mêlés, acheva-t-il, indifférent à moi, qui était tombé à genoux et le suppliait. » Alors, la commune devint aussi claire que moi. Mais le maire n'était toujours pas content. « Tantôt vous êtes noir, tantôt blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est louche tout ça !» Alors, se métamorphosant en mandarin, la commune dit qu'il était aussi jaune si on le voulait. « Ah, ça ne va plus du tout !» tempéta l'officiant. Je pris alors le sac d'or et je le tendis au maire en lui disant « Prenez !» C'est ma dot. Et j'éclatai d'un rire qui était un chant, celui-là même que cette femme avait chanté à Harlem, le blues de l'Alabama. Et, soupesant l'or, le maire déclara que ça au moins, ça n'avait pas de couleur. Alors, me tournant vers la commune, stupéfaite, je vis qu'il était devenu à moitié blanc et à moitié noir, partagé en deux, dans le sens de la longueur, comme ses habits de fou du Moyen-Âge, et qu'il rigolait un peu grassement, à la manière des nègres des grands fonds de chez nous, la tête renversée en arrière et les yeux au ciel. Le maire rigolait lui aussi, et son rire s'échappait de ses lèvres comme de la cheminée d'une locomotive, à petits coups brefs de vapeur comprimée. Et je m'aperçus que je répétais sans arrêt « Prenez, c'est ma dot !» tandis qu'une voix inquiète au fond de moi se demandait si toute cette allégresse et le mariage lui-même n'étaient qu'une plaisanterie, ou s'il fallait au contraire prendre cette affaire avec le plus grand sérieux et pleurer toutes les larmes de mon corps qui se pressaient brûlantes, joyeuse sous chaque centimètre de ma peau, de ma tête à mes pieds. Adieu Bogota.
Fin de cette rencontre de Martin Kenéen avec Simone Schwarzbart. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Frédéric Quérou, coordination Claire Poinsignon. Les émissions s'écoutent en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.